Voulez-vous suivre Jésus? Ça vaut le coup de le suivre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Une rencontre du troisième type. Quels sont les anciens qui connaissent ce film? Les rencontres. Il n'y a pas que les anciens. Avec Richard Dreyfuss, l'acteur. Et il y a même, je pense, un metteur en scène français, Truffaut, je crois. Non, ou quelque chose comme ça, qui joue dans ce film. Rencontre du troisième type. Parce qu'il y a trois types de rencontres. Vous pouvez faire... Je suis désolé pour ceux qui étaient à Moucron, mais vous allez réécouter le message. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais ça me paraît vraiment important de vous apporter ce qui est apporté ce matin, parce que ça correspond vraiment à ce que Dieu met sur mon cœur pour cette communauté. Les quatre étapes, vous allez voir. Il y a trois types de rencontres. La première, vous pouvez rencontrer une personne. Moi, je rencontre André. Bonjour André, ça va? Tu ne sais rien. Donne la... Et puis je rencontre André, et puis je m'en vais. Il ne s'est rien passé, si ce n'est qu'une... Quelque chose de neutre, rencontre neutre. Et puis, il y a d'autres personnes que l'on peut rencontrer. On peut rencontrer Alice. Salut Alice. Ah purée, Alice a l'air d'être sympa. Mais il s'est passé un petit quelque chose. Et puis, on peut rencontrer quelqu'un, et cette personne, lorsqu'on la rencontre, il se passe quelque chose. Vous avez déjà vécu ça? Là, surtout, je pense aux amoureux. Le jour où vous avez rencontré votre femme, vous dites « Waouh, j'ai envie de passer le reste de ma vie avec elle. » Ou alors, des fois, vous rencontrez des gens, tout de suite, ça passe et vous dites « Il y a quelque chose chez lui ou chez elle et j'ai envie de connaître plus. » Moi, j'ai rencontré professionnellement un homme, il s'appelle Jean-Raymond, c'est pas lui, hein. C'est un autre qui est décédé aujourd'hui. Et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cet homme, à ce qu'il a fait pour moi. Parce que je sais où le jour où je l'ai rencontré... Ce que je suis aujourd'hui professionnellement, c'est lui qui me l'a donné. Ça a changé ma vie professionnelle. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un, moi ce qui m'intéresse, ce sont des rencontres comme ça. Ce n'est pas simplement de rencontrer quelqu'un un petit peu, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe dans cette rencontre. Qui a déjà fait ce type de rencontre? J'espère que vous avez tous levé la main, parce que moi le jour où j'ai rencontré Jésus, c'est ce qui s'est passé. Ma vie n'était plus la même. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était confus pour moi. Je n'ai pas tout compris. Je savais qu'il y avait mon péché qui me séparait de lui. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Il y avait des choses qui m'empêchaient d'avoir la vie, la vraie vie. J'étais pas vieux pourtant. J'avais 25-26 ans. J'avais cherché tant de choses, tant de stratagèmes pour essayer d'être heureux. Je n'avais jamais été vraiment heureux. Même si j'avais une belle femme, elle l'est toujours belle, hein, je vous rassure. Même si j'avais un job, même si j'avais une maison, on venait d'avoir notre premier fils, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Et lorsque Jésus va à la rencontre de quelqu'un, il se passe quelque chose. Moi, j'ai foi que quand Jésus rencontre quelqu'un et l'appelle, il se passe quelque chose. Et j'ai un exemple précis ici. Dans l'évangile de Matthieu, je vous le lis, ou on le lit ensemble. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Visiblement, ces gars-là étaient pêcheurs. Car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Si là, ce n'est pas une rencontre du troisième type, si je puis dire, si ça, ce n'est pas une rencontre que des hommes ont fait avec Jésus et qui a changé leur vie, ce n'est pas une rencontre. Visiblement, ces hommes ont changé. Leur existence a changé. Et quand Jésus nous rencontre, il veut que ça change dans notre vie. Vous comprenez cela? Il veut que ça bouge. Autrement dit, si tu dis, en réalité, dans ta vie, tu dis « j'ai rencontré Jésus et qu'il ne s'est rien passé », c'est qu'il y a un problème. Il faut poser la question, il faut être honnête avec soi-même. D'accord ? À un moment donné, on doit se poser des questions. Et là, à mon avis, vous allez voir qu'il y a ici quatre étapes par lesquelles Jésus leur fait passer. Quatre étapes qui sont la résultante d'une véritable rencontre qui change une vie. Ce que je vais vous demander de faire ce matin, c'est de ne pas regarder ma belle-mère, pas regarder votre voisin, pas sonder à quelle étape pourrait se trouver votre voisin ou quelqu'un de cette communauté, mais de vous poser la question, où en suis-je moi par rapport à ces quatre étapes ? Parce qu'en réalité, vous allez voir que quand Jésus nous rencontre et nous fait passer par ces quatre étapes, il y aura forcément dans son cœur le but de nous amener à la dernière, et on va le voir. La première étape, c'est que Jésus veut nous connecter ou nous reconnecter avec Dieu. C'est pour ça que cette vidéo est passée, juste avant. Il dit, avant même, il est en Galilée, Jésus commence à prêcher. Il se passe des choses. Sans doute, il n'est pas dit dans les Écritures, mais sans doute que Pierre, Jean, Jacques, André ont entendu l'évangile. Ils ont entendu déjà Jésus prêcher peut-être. C'est l'hypothèse de Bruno, hein. C'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mais ils ont entendu dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La première des choses que Jésus, lorsqu'il vient vers toi, dans son désir et par amour pour nous, il veut te reconnecter avec Dieu. Il veut te mettre en communion avec Dieu. Je dis ça pour le plus ancien, parce que peut-être connexion, ça fait informatique. Mais il veut nous amener dans une véritable connexion. Vous savez, lorsque je suis allé aux États-Unis, Damien avait oublié son adaptateur. Vous savez que quand vous allez dans un pays étranger, toutes les prises ne fonctionnent pas comme les nôtres. Vous avez besoin d'un adaptateur. La première des choses que j'ai faites, lorsque nous étions à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai dit « Attends !» Parce que si on veut continuer d'utiliser nos appareils, nos téléphones, notre ordinateur, etc., si tu veux te tailler la barbe correctement, il nous faudra l'adaptateur. Il nous faudra quelque chose qui nous connecte avec le monde électrique des États-Unis. Et de la même manière, celui qui te connecte à Dieu, c'est Jésus. Ton adaptateur, si je puis dire, je ne descends pas ce que Jésus a fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui te connecte à la possibilité d'être avec Dieu, d'être en connexion, en communion avec Dieu. C'est lui qui nous amène à Dieu. C'est pour ça que dans la vidéo, vous pouvez voir tout à l'heure, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ne cherche pas à te connecter avec Dieu, avec tes propres moyens, avec tes propres capacités. Non, prends gratuitement l'adaptateur qui t'est donné par le Seigneur. Connecte-toi à Dieu par Jésus-Christ. Seulement, on a un problème, mes frères et mes sœurs. Nous sommes pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le problème de nos vies, ça. Pour nous connecter avec Dieu ou nous reconnecter avec Dieu, on a besoin de trouver une solution par rapport à notre péché. Qui peut dire encore aujourd'hui qu'il est parfait ? Qui peut dire encore aujourd'hui qu'il n'a jamais péché ou qu'il ne péchera jamais ? Et là, vous voyez qu'il y a une solution. La solution, c'est que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le résultat de cela, c'est que quand tu es connecté, tu peux allumer ton ordinateur, tu peux raser ta barbe, tu peux, recharger ton portable, tu peux brancher ton Wi-Fi, tu peux. Là, il y a quand même quelque chose qui se passe quand tu es branché. Le problème, c'est que souvent, nous fonctionnons sur nos batteries. Et vous savez que plus les batteries vieillissent, plus elles ont des difficultés à tenir le temps, la charge. Et il y a plein de personnes qui vivent comme ça. Ils disent, je vais me recharger avec le Seigneur le dimanche. Et dans la semaine, ils ne vivent pas ces choses. Et ils pensent qu'ils peuvent tenir comme ça. Et parfois, la qualité même de la prédication, de la louange, ou ce que la personne peut vivre, est tellement faible qu'elle ne trouve pas suffisamment de ressources pour aller plus loin dans la semaine. Et vous tombez avec des personnes qui passent leur vie à vivre comme ça, qui ont tellement de difficultés. J'ai vu un truc cette semaine sur Facebook que j'ai beaucoup aimé. Parce que le culte est important pour moi à mes yeux, vous le savez. Moi, je voudrais que cette salle soit pleine, pleine de tous ceux qui font partie de cette communauté et de ceux aussi qui ne sont pas sauvés. Je voudrais voir cette salle remplie. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a une bénédiction lorsqu'on est ensemble. Et cette semaine, dans Facebook, j'ai vu un truc, c'est un gars qui traînait, un autre gars qui dit, si tu ne veux pas aller au, si tu n'as pas le courage d'aller au culte, ne laisse pas ta chair te laisser là où tu es, traîne-la. Là, vous voyez le gars traîner, c'est un dessin, qui traîne un autre gars qui l'amène au culte. Parce que il dit, le dessin dit, ce n'est pas à ta chair de décider. Mais à tous ceux qui croient, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la résultante de ma connexion. Et ça ouvre les portes vers quelque chose de puissant, de quelque chose de grand, de quelque chose où nous voyons Dieu agir en nous. On ne reçoit pas de force, c'est la force de l'Esprit, sans nous être connectés avec Dieu avant. La deuxième étape, donc là c'est la première étape. Vous les retenez parce que je fais une interrogation écrite derrière, on va vous distribuer des feuilles, des stylos, et je donnerai des notes. Tournez le dos au passé, mais je plaisante, hein, vous partez pas. Hein. Tournez le dos au passé pour entrer dans notre destinée. Là, il leur dit quelque chose. Ils jettent leur filet dans la mer. Ils sont dans leur présent. Ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours jeté des filets. Ils ont toujours amassé des poissons. C'est, il fait partie de leur vie. Ça fait partie de leur existence. Ça fait, ils vont tous les jours pêcher, peut-être sauf le jour du Shabbat. Mais ils laissent les filets et ils suivent Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'à un moment donné, quand tu rencontres le Seigneur, tu ne peux plus faire ce que ton passé te dictait de faire. Et ils réparent leur filet, les deux autres. Et que se passe-t-il ? Ils laissent la barque à leur père. Le pauvre Zébédée, il a dû faire une tête pas possible. Il dit, hey, j'ai du boulot, les gars. J'ai mes filets à réparer. Et eux, poudre d'escampette, ils suivent Jésus. Vous croyez que c'était pas puissant comme rencontre, ça ? Pour amener des fils qui aiment leur père, des fils qui ont toujours travaillé avec leur père, quitter ce qu'ils sont en train de faire à l'instant présent pour faire autre chose, à savoir suivre Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est sur mon cœur et qui me gêne. C'est que beaucoup de personnes sont bloquées. Ils n'arrivent pas à jeter leur laisser leur filet. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup d'existences, je vois que ton passé demeure et reste ton présent. Je répète, et c'est de moi, donc pour une fois, ton passé reste et demeure ton présent. Réfléchis à ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses que tu as vécues, comprises, des choses que tu as pu peut-être subir, restent ton présent aujourd'hui. Or, l'étape par laquelle Jésus leur fait passer ici, c'est qu'il laisse le passé pour se tourner vers un avenir. Vous comprenez cela ? Ça veut dire que c'est puissant et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut sauver, il veut nous reconnecter avec lui. Mais plus encore, il veut nous libérer de ce qui nous tient dans notre passé pour nous donner un avenir en lui. Car j'ai pour toi un avenir et de l'espérance. Celui qui met à la charrue, les mains à la charrue et regarde en arrière, c'est-à-dire celui chez qui Le passé est toujours le présent, dans son présent, n'est pas propre au royaume. Réfléchissez cette semaine, pensez à cela et vous allez voir. Le problème, c'est que, un, par rapport à notre passé, souvent nous nous isolons. D'abord, quand moi j'ai des soucis, j'ai l'impression que je suis la seule personne qui a souffert, que personne ne peut me comprendre et que Dieu n'a surtout pas de solution. Parce que la foi, entre nous, on l'a toujours quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est déjà plus dur. D'accord ? Or, beaucoup de gens s'isolent et ils ne communiquent pas, et j'aurais dû ajouter manque de communication et de communion. Or, dans ce que nous avons comme projet ici, dans ce qu'il y a comme projet de la part de Dieu pour cette communauté, ce n'est pas simplement sauver les âmes, ce n'est pas simplement remplir une salle, ce n'est pas simplement dire « Ah oui, on a bien travaillé !» Non ! Moi, j'aimerais au fond de mon cœur que dans cette communauté, il y ait vraiment une construction dans les relations, qu'on puisse vivre de vraies relations d'amour, où je trouverai, moi, des gens qui viendront, qui seront capables de m'écouter et de me dire « Ah oui, Bruno, viens, je vois que tu as un problème. » Ou alors, je leur dirai « Tu sais, j'ai un problème, je suis lié par des choses, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de que mon passé ne soit plus mon présent. » Et là, ces gens m'accueilleront, ils prieront pour moi, je recevrai. Parce que déjà, je ne serai plus isolé. Deux, je communierai et je communiquerai. Et trois, je recevrai la liberté. Parce que Dieu ne choisit pas les cultes pour te libérer de ton passé. Dieu choisit les relations pour te libérer de ton passé. Regardez la relation qu'il établit avec la Samaritaine. Il établit une relation d'abord, avant de lui dire qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin d'être délivrée et qu'elle a besoin de changer. Vous comprenez ? Et ça, ça fait partie du cœur de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors quand ? Vous allez me dire, mais comment trouver cela ? D'abord, sortez de votre isolement. Cherchez des frères et des sœurs. C'est pourquoi nous avons mis en place des groupes de maison. C'est pourquoi les responsables de groupes de maison sont pour moi des vrais couples pastoraux. Quand on partage des choses aux réunions de prière ici le jeudi ou là-bas à Marc-en-Barœul, on peut prier les uns pour les autres, on se comprend, on s'aime. Donc si tu passes ta vie à venir au culte le dimanche et à attendre le culte du dimanche prochain quand tu es présent, parce que les trois quarts du temps, il faut dire ce qui est, on vivote, ben, sache que ce n'est pas la solution de Dieu pour te libérer de ton passé. La solution de Dieu pour toi, ce sont des relations, ce sont les groupes de maison, ce sont des groupes de prière, ce sont des relations entre hommes, des groupes d'hommes, des groupes de femmes. C'est ça la solution de Dieu. Parce que là, on peut prier pour toi. Là, on peut t'écouter. Là, tu vas trouver des amis. Et là, même quand il y aura des sujets un peu plus délicats, un peu plus complexes, là, tu trouveras peut-être et sans doute un vis-à-vis avec qui tu pourras discuter de tout cela et prier. Donc la solution, il faut sortir de son isolement. Le deuxième problème, c'est que souvent on est fataliste. Avez-vous remarqué cela ? Ben, j'ai toujours fait comme ça. Vous vous souvenez de Pierre qui rencontre Jésus et lui dit ben, « Nous avons travaillé toute la nuit, nous avons jeté toute la nuit notre filet et nous n'avons rien récupéré. » Vous vous souvenez de ce passage ? Le gars fatigué et fataliste, il dit « Aujourd'hui, c'est je rentre bredouille à la maison. » Maman, elle va me tirer un nez, pas possible. Et ma belle-mère, parce qu'à l'époque, sa belle-mère, elle avait été guérie, peut-être, par Jésus, ou elle allait l'être. Je n'ai rien à apporter à la maison. Vous imaginez la tête des femmes à la maison, des enfants ? Le père ne nous ramène rien. Il n'a rien vendu comme poisson. Bredouille, fataliste. Il dit, je n'y arriverai pas aujourd'hui. Jésus arrive et dit, jette ton filet là-bas. Et Pierre, il a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il sort de son fatalisme. Il sort de son incrédulité, parce que le fatalisme nous amène l'incrédulité. C'est tout le contraire de la foi. Sur ta parole, dit-il. Sur ta parole, je jette le filet. Et ça, c'est puissant. Parce que souvent, on dit, on s'arrête à ce verset d'une manière concrète dans notre vie, on s'arrête, on dit, j'ai jeté le filet toute la nuit. J'en ai marre. J'en peux plus. C'est bon. Je n'y arriverai pas. Bien sûr. Mais sur ta parole, je veux jeter mon filet ce matin. Qui est prêt à jeter son filet pour passer à la deuxième étape? Pour passer cette deuxième étape, c'est important. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai entendu cet été, je vous la raconte. Tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est l'histoire de six hommes qui vont dans un séminaire avec leur pasteur, Bruno. Donc, ils se séparent. Enfin, ils se séparent de deux à deux par chambre, hein, parce que l'église Betzalel n'est pas assez riche. Donc, ils ont des chambres en double. D'accord ? Et puis, ils s'en vont tous dormir après le premier soir de séminaire. Ça me rappelle Hélène, pour ceux qui dormaient dans notre chambre. On ronflait chacun notre tour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était concert en ronflement majeur. C'était extraordinaire. C'était beau. Les anges nous accompagnaient. Et le lendemain matin... Le lendemain matin, je t'entends François, le lendemain matin, tous descendent en pleine forme, ils ont super bien dormi, sauf celui qui a dormi avec Bruno. Il arrive le gars, Bruno est en pleine forme, et le gars il arrive, il est complètement démoli, défait. Et il lui pose la question, il dit mais qu'est-ce qui arrive? Ben, il lui dit le problème c'est que Bruno est un ronfleur de première. Il ronfle, mais alors, demandez à Damien. C'est vrai. Il ronfle, il ronfle, il ronfle. Et j'en peux plus, quoi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allez, ses copains, parce que c'est des bons chrétiens, hein, très courageux, se disent ce qu'on va faire, c'est qu'on va se relayer. On va pas laisser le premier dormir toute la semaine comme ça. À la fin, on le récupère à la petite cuillère, quoi. Donc, ils font un tour de garde, quoi, si je puis dire, avec Bruno. Le deuxième, le lendemain matin, arrive au petit déjeuner. Il arrive, il a dormi avec Bruno, que se passe-t-il? Le mec est crevé. Et puis le troisième, puis le quatrième, et puis on arrive à la fin de la semaine. Et là, c'est le dernier qui dort avec Bruno. Et là, le gars, il arrive le lendemain matin, il pète la forme, si vous me permettez l'expression. Il est vraiment en forme. Et là, t'as Bruno qui arrive au petit déjeuner, il a des cernes, il n'en peut plus. Ses collègues se disent, mais que s'est-il passé? Et ils vont voir le gars et lui disent hey, « Mais on comprend pas, normalement c'est toi qui devrais être complètement endormi. » Et il dit voilà, « Voilà ce que j'ai fait. Hier soir, avant de nous coucher, j'étais torse nu. J'étais voir Bruno, je l'ai regardé droitement dans les yeux. Et je lui dis « Tu sais Bruno, je t'aime beaucoup. » Puis je lui fais une grosse accolade où je l'ai serré très fort. Puis on s'est couché. Et là, c'est Bruno qui m'a regardé toute la nuit. Pourquoi je vous raconte ça? Elle est rigolote, cette histoire. Mais moi, elle m'a beaucoup parlé. Parce qu'il y en avait un dans le tas qui avait choisi de contrecarrer ce qui pouvait arriver. Il s'opposait au fatalisme. Vous comprenez ça? Et je ne dis pas que c'est pas une histoire inspirée, mais je peux vous dire que le Seigneur a une parole, sur ta parole je jette mon filet, mais le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Par rapport à chaque situation, et ton problème, c'est que tu n'écoutes pas Dieu, tu écoutes tout le temps, j'ai jeté le filet toute la nuit. Alors que Dieu te parle souvent. Par une, deux, trois personnes. Parfois, ça peut être par des situations où il veut t'apporter la solution. Donc, la première étape, connecter avec Dieu. La deuxième étape, nous libérer de notre passé. La troisième étape, c'est entrer dans sa destinée. Trouver ce pourquoi nous avons été créés. Il leur dit, suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus ne leur dit pas, je vais faire de vous des apôtres. des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des responsables de groupes de louanges, des responsables de groupes de maisons. Il leur dit pas ça. Il dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Les âmes, c'est l'objectif de Jésus. J'ai entendu, là, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. On a bien entendu, le focus de Jésus, ce n'est pas les 99 brebis. Jésus met son focus sur la brebis qui est perdue. Et lorsque Jésus veut nous faire passer par ces étapes, il veut nous amener à comprendre que ce que nous avons reçu de la part de Dieu, ce n'est pas pour faire fonctionner l'Église. Ce n'est pas pour prophétiser. Et juste que l'Église devienne belle, grasse, bien grosse. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le but, c'est de former des disciples pour les amener à maturité. C'est la quatrième étape que nous allons voir. Afin que cette Église ait un impact dans le monde. C'est tout à fait différent. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le passé, peut-être que vous avez vécu comme ça. Moi, j'ai vécu dans une église comme ça. On fabriquait des ministères qui servaient dans l'église. Alors, ils servent dans l'église, j'entends bien. Mais le but ultime, c'est pas de dire on a tous les ministères, nous fonctionnons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Non, le but, c'est de nous amener à avoir un impact sur le monde. Et là, c'est tout à fait différent. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est vraiment important ça. Parce que ça doit, si vous le comprenez tant mieux, mais ça doit sortir à la fois de notre intelligence, ça doit être impacté dans notre intelligence, mais dans notre volonté. Parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui m'a dit ça une fois, elle avait un problème, je ne sais plus, sur le talon ou quelque chose comme ça, et la personne boitait, vous voyez? Et elle avait appris à boiter et à coordonner son corps en fonction de sa douleur. Le jour où elle a été guérie, elle continue à boiter. Et le corps a besoin d'être rééduqué. Nous avons besoin d'être rééduqués. J'ai besoin d'être rééduqué. Et ce mot signifie reformer, réformer. Moi, j'ai besoin d'être réformé. Les dons et les ministères ne sont pas des buts, mais des moyens que Dieu a choisi pour sauver les âmes et les amener à la quatrième étape. La quatrième étape que voici. Pour en revenir, entrer dans cette destinée, c'est pour ça que nous avons fait un parcours de découverte. Parce que dans le parcours de découverte, c'est le parcours 3, je crois, Damien, sur moi, il y a « Découvrez vos dons ». Et c'est pour ça aussi que dans les entretiens, on cherche vraiment à dire « Qu'est-ce que tu penses avoir reçu de Dieu ?» Parce que le but, c'est de fortifier l'Église. Tous ensemble, nous nous fortifions les uns les autres et nous serons plus forts pour impacter le monde. Quatrième étape, donc, c'est impacter le monde. Ah, c'est clair. Ils n'ont pas impacté le monde tout de suite. Ils ont suivi Jésus, ils ont vu comment il faisait. Mais néanmoins, un peu de chapitres après, il est dit que Jésus leur donna leur pouvoir. Ils ont vécu des choses, ils ont commencé à impacter le monde. Ils n'ont pas attendu 10 ans pour impacter le monde. Souvent, on t'a dit, ouais, mais t'es pas prêt, t'es trop jeune. Oh, mais t'as encore ça comme défaut. Mais Pierre était plein de défauts. Les fils de Zébédée ne se sont-ils pas aussi battus pour dire qui était plus grand dans le royaume? N'avaient-ils pas un problème d'orgueil? Oui, Jésus s'en est occupé, mais ça ne l'a pas empêché de les équiper pour qu'ils impactent le monde. Ça aussi, tu dois sortir de ça, de ton intelligence. Tu ne dois pas être parfait pour servir. En Christ, je suis parfait et je compte sur le Saint-Esprit et sur le frottement que nous faisons les uns les autres entre nous pour changer moi dans ma propre vie. C'est pour ça qu'il y a une bénédiction sur l'Église. Il y a une bénédiction d'être dans le corps, même si tu souffres, même si tu n'es pas d'accord, même si le pasteur il t'emmène là où tu n'as pas envie. C'est une bénédiction pour toi parce qu'à chaque fois que tu souffres, c'est là où tu es redressé en réalité. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà la quatrième étape. La première étape, il te connecte avec Dieu. La deuxième étape, purée, ils n'ont pas écouté. Bon, je recommence tout depuis le début. Non, la deuxième étape, allez, aidez-moi, je ne m'en souviens plus. Il te libère du passé. La troisième étape, il t'équipe. Et la quatrième étape, ils impactent le monde. Pierre, André, Jacques, ont vu cela. En suivant Jésus, ils ont compris que désormais leur objectif était d'accomplir les œuvres que Jésus a faites. Et là, il y a un constat. Malheureusement, il y a un constat. C'est que très peu de personnes arrivent à cette étape aujourd'hui. Moi, en tout cas, je vous le dis en toute honnêteté, je ne pense pas être arrivé à cette étape. J'aimerais impacter plus le monde qui m'entoure. Mes collègues de travail, ma famille, je m'en suis rendu compte pendant les vacances, c'était compliqué en vacances d'impacter sa famille, d'impacter ses amis non chrétiens, ses proches. C'est difficile et je voudrais plus impacter. Et vous savez pourquoi on n'impacte pas le monde souvent ? Parce que notre priorité n'est plus le monde. Parce que notre priorité, c'est de faire fonctionner l'Église, alors que notre priorité, c'est d'impacter le monde. Comprenez ce que je veux dire ? Je sais par exemple que quelqu'un chez nous a fait un truc hier, pour ne pas le citer, c'est Geoffrey, tu as fait un truc hier au Berlouf, là, c'est ça ? Est-ce que tu y vas comme ça les doigts dans le nez ? Ton objectif, c'était de faire quelque chose et tu t'entraînes avant. Ton objectif, c'était de faire les choses. Vous voyez, l'objectif que nous nous fixons va déterminer notre entraînement et ce que nous allons mettre en place pour y arriver. Et ça, il faut le réaliser. Si ton objectif, c'est de vivre une vie sympa à l'église tous les dimanches, oui, tu ne feras rien. Si ton objectif est de devenir un grand prophète, vas-y. Mais tu n'impacteras pas le monde. Tu impacteras peut-être l'Église, j'entends bien, mais tu n'impacteras pas le monde. Tout ce que tu reçois, c'est pour les perdus. Tout ce que nous recevons, argent, je dis bien argent, don, ministère, c'est pour aller sauver les perdus. Est-ce pour autant que nous allons négliger ceux qui sont dans l'Église ? Non, il y a des groupes de maison. Nous continuons à faire un travail pastoral. Nous continuons à former les disciples. Nous continuons. Comprenez ? Parce que certains pourraient avoir peur et se dire « Ouais, maintenant, il n'y a plus que les perdus. » Non ! C'est les perdus, mais on bâtit une église forte pour qu'elle ait un impact dans le monde. C'est tout à fait différent. Comprenez ça ? Alors, 4 étapes. Tout juste. Les véritables étapes, fruits d'une véritable rencontre avec Jésus. Je suis reconnecté avec Dieu ou connecté avec Dieu. Je suis libre de mon passé. Je sais pourquoi j'ai été créé. Et enfin, je m'en vais impacter le monde. Et là, j'aimerais que Déborah vienne jouer, si tu veux bien. Où en es-tu ? Où en es-tu ? C'est une question importante qui vous est posée ce matin. Quelle étape supplémentaire ? Qu'est-ce que je dois faire dans l'avenir pour y aller ? Est-ce que tu as besoin de te reconnecter avec Dieu ? Peut-être que tu as besoin de te connecter davantage avec lui. Il t'aime. Il te veut. Nous avons vu cette vidéo. J'ai donné ma vie parce que je t'aime. Je t'ai vu dans ta misère parce que je t'aime et je veux te sauver. Il veut te connecter avec lui. Il veut vraiment communier avec toi. C'est ce que Dieu veut faire. Est-ce que tu as un péché dans ta vie qui t'empêche d'être celui qui est connecté avec Dieu ? Est-ce que tu as besoin d'acheter l'adaptateur ? Ou peut-être que tu as l'adaptateur, mais tu as simplement besoin de rebrancher la prise dans ta vie. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que tu es libéré de ton passé ? Est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses qui doivent changer ? Je veux bien prier, mais connecte-toi avec un groupe de maison. Va dans un groupe de maison. Établis des relations avec d'autres. Je sais que les relations t'ont peut-être brisé. Peut-être que tu as été déçu par des gens qui représentaient l'autorité. Mais c'est quelque chose que tu dois mettre de côté. La solution de Dieu, ce sont des relations. À travers mon frère, à travers ma sœur, je peux vivre une véritable libération. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été créé ? Si tu ne le sais pas, ici on est prêt à t'aider. Parce que moi, j'ai une conviction. J'ai été créé pour quelque chose. Tu as été créé pour quelque chose. Tu as été créé pour proclamer les vertus de celui qui est, qui était et qui revient. Tu as été créé pour ça. Tu as été créé parce que Dieu t'aime. Tu n'as pas été créé pour m'être mis dans le coin de la pièce. C'est pas vrai. Tout dans le royaume sert au royaume. Toute personne dans le royaume sert au royaume de Dieu. Tout don qui est donné sert au royaume de Dieu. Et tu as été créé pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas quelqu'un qu'on met dans le coin ou qu'on cache. Tu es quelqu'un que Dieu veut, qui veut te mettre en avant et dire « Voilà mon fils, voilà ma fille, je l'ai créé pour cela. » Et tout a de l'importance dans le royaume. Tout. Pas celui qui prêche, c'est pas lui le plus important. Celui qui accueille est important. Souviens-toi, Benjamin, la première fois où tu es revenu, qu'est-ce qui t'a touché? La personne qui t'a accueilli, qui connaissait ton nom. C'est pas vrai? Tout est important dans le royaume. Celui qui prie, ce matin, il y a des personnes qui ont prié pendant mon message. Eux sont importants. Il y a des gens qui prient chez eux, qui jeûnent et qui prient. Ils sont importants. Il y a des gens qui vont vous préparer du café. Ils sont importants. Il y a des gens qui filment, qui passent des après-midi, tout leur dimanche après-midi, 2 à 3 heures, pour que ça soit mis sur le site internet. Ils sont importants. Tout le monde est important dans le royaume. Et nous avons tous été créés pour l'importance du royaume. Et enfin, est-ce que tu fais le même constat que moi? Est-ce que tu impactes ton entourage? Non. Enfin, insuffisamment en tout cas, Seigneur. Et de plus en plus dans mon cœur, il y a quelque chose qui brûle en moi. Et je me dis, Seigneur, je ne peux pas continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux plus continuer à être cet homme. Je veux impacter le monde dans lequel je suis. Et c'est pas compliqué. J'ai juste à présenter le message de la croix. Le message de la croix. On va prier. Si vous voulez bien, baissez les fronts, enfin vous priez comme vous voulez. Hein. Qui veut se connecter ou reconnecter avec Dieu ce matin? Fermez les yeux. Je voudrais vous voir que vous. Qui sent qu'il a besoin de se reconnecter avec Dieu ce matin? Faites-moi juste un petit signe et baissez votre main. Ouais, d'accord, j'ai vu. Ok, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main, qui ont besoin d'être renouvelées dans cette reconnexion avec Dieu, dans cette communion avec Dieu. Père, je prie. Je prie pour ces personnes. Et vous priez avec moi. Père, je crois que Jésus est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, je me connecte avec toi par Jésus-Christ. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes révoltes. Je te demande pardon pour mes insuffisances. Je te veux vraiment dans ma vie. Je te demande que tu viennes régner en moi. Aussi, je viens. Et je te reçois, Seigneur. Montre-moi cette semaine ce que ça vaut le coup de me reconnecter avec toi. Je prie pour que ça change ma vie. Je prie pour que ça bouscule mes circonstances, que ça bouscule ma manière de penser, que ça bouscule ce que je suis. Oui, Seigneur, viens et prends toute la place du roi, comme nous l'avons chanté ce matin. Règne éternel, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Quels sont ceux maintenant qui veulent être libérés de leur passé? Faites-moi un petit signe. Est-ce que vous sentez dans votre cœur qu'il y a des choses qui doivent être changées par rapport à votre passé? Père, je prends la décision ce matin de ne plus fonctionner individuellement, mais je veux bâtir des relations dans l'Église. Je veux chercher mon vis-à-vis. Je veux chercher des personnes qui vont venir et qui seront à mon écoute. Et ce que je te demande, Père, c'est que tu donnes à cœur aux personnes qui ne font pas partie de groupes de maison, d'intégrer un groupe de maison, d'aller dans un groupe de maison pour vivre cette relation-là, Père. Je te le demande au nom de Jésus. Et je prie pour que dans les mois qui viennent, nous puissions entendre toutes les bénédictions qui découlent de cet engagement ce matin, Père. Je te le demande au nom de Jésus. Père, qui ce matin pense et ne sait pas encore ce pourquoi il a été créé. Oui. Oui. Je prie pour ces personnes, Seigneur. Parle à leur cœur. Parle. C'est toi qui convainc, Seigneur. C'est toi qui envoies. C'est toi qui donnes les dons. Il y a un seul Seigneur et par le même esprit que sont opérés des signes, des prodiges, des miracles. C'est par l'esprit que sont les dons, que les dons sont donnés. Oh Père, je prie pour que ça devienne une réalité dans les mains, dans les cœurs, dans les esprits de celles et de ceux qui ont levé la main ce matin. Père, je te demande de parler. Père, je te demande de montrer. Père, je te demande de guérir aussi. Parce que beaucoup ont peut-être cette impression qu'il n'existe pas à tes yeux. Et je prie pour cela, Père. Viens guérir, viens délivrer, viens sauver. Maintenant, c'est l'Église qui lève la main, Seigneur. Et nous déclarons que dans tout ce que nous voulons faire, construire, bâtir ici, nous déclarons par notre prière que nous voulons impacter notre monde, que nous voulons impacter nos voisins, notre famille, nos proches. Et Éternel, je te le demande, dans le nom puissant de Jésus, viens libérer. Je vois des pères rebelles se tourner vers Dieu. Je vois des mères qui te rejettent se tourner vers Dieu. Je vois, Seigneur, dans l'esprit que tu veux faire, Seigneur, des miracles dans les familles, des miracles sur les lieux de travail. Tu veux établir des choses que nous n'avons pas encore vues, comprises. Seigneur, je te demande, accompagne-nous de la puissance du Saint-Esprit. Sans ton esprit, sans ta puissance, sans ton autorité, Seigneur, viens nous montrer que nous pouvons encore impacter le monde. Oui, Dieu n'est pas mort, il est vivant, il règne au siècle des siècles. Oui, Dieu est celui qui règne, et à travers moi, il veut changer ma société, il veut changer mon entourage, il veut changer l'ambiance dans mon travail, il veut libérer des choses. Alors je te prie, Père, impacte notre monde à travers nous. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.